Radio Campus Hill, bonjour ou rebonjour, c'est Tristan Sergeiter. Il est 16h04 et 40 secondes. Vous êtes bien à l'écoute de Lille 1 Info, Doc Map, de Musicopier au micro pour remplacer bien sûr notre ami René Lavergne à l'autre bout du monde, le Vénard. Et aujourd'hui, en ce mercredi 18 mars 2015, nous recevons Jean-Philippe Cassard et Tylan. Tylan, au fait, Tylan Lu.
Oui,
on reste toujours sur Lu, hein. Voilà, tu sais, non, c'est, voilà. C'est une vieille connaissance, le monde est tellement petit qu'en fait nous étions surpris nous-mêmes en fait, de nous retrouver là. Tour nous parler en fait de la maison pour la science. Alors on va peut-être rentrer un peu plus dans le vif de cette interview. Jean-Philippe, vous êtes là en tant que vice-président de l'Université de Lille 1 ou est-ce que c'est plus précisément en tant que responsable donc, de la maison pour la science?
Alors, en tant que vice-président de l'Université de Lille 1, chargé de la culture et de la culture scientifique.
Eh oui.
Chargé par le président de superviser, d'impulser ce projet Maison pour la science. Donc on a démarré, je vous rappelle, il y a plus de 2 ans, donc en 2013, à la sollicitation donc, de la Fondation nationale La Main à la Pâte et à l'initiative aussi de l'Académie des sciences. Donc un projet a été déposé, retenu, et donc depuis un peu plus d'un an, maintenant janvier 2014, on est dans la phase opérationnelle. Donc la maison depuis s'est dotée d'un directeur, Francis Mélier, et d'une directrice adjointe, qui est donc Tylan Lu, et qui m'accompagne aujourd'hui. Et je suis très heureux d'ailleurs que nous soyons à deux pour faire cette interview.
Mais nous aussi, nous sommes très heureux en fait de vous accueillir au micro de Radio Campus Hill pour mettre en avant donc cette actualité de la maison pour la science. Tylan, ben ça alors, en fait, qu'est-ce que le monde est petit?
Tout à fait.
Maman va bien?
Très très bien, oui.
Donc rassurez-vous, sur notre réseau, on ne va pas rentrer en fait donc dans le familial, le local, l'amical, mais en fait, nous sommes de vieilles connaissances et en fait, nous n'étions absolument pas au courant en fait. Bah, j'avais vu un grand merci toujours comme toujours à Rosemary Carbonel de m'avoir en fait donc envoyé, mais elle me disait donc dans son mail, Jean-Philippe fera duo avec Tylan, et j'ai dit bah oui, bah c'est pas Tylan, mais il n'y avait pas le nom de famille, et Vladipak en fait c'est cette vieille connaissance quoi. Donc Tylan, qu'est-ce qui nous vaut en fait donc cette promotion de vice
de directrice adjointe? Voilà. Bah, en fait, moi, je travaille donc dans la culture scientifique.
Oui.
Et donc, à la base, je voulais être aussi enseignante. Donc, la Maison pour la science au service des professeurs en Nord-Pas-de-Calais, c'est quand même un bon moyen de mixer l'enseignement et la culture scientifique.
N'est-ce pas?
Donc voilà, me voilà propulsée à la Maison pour la science.
Alors justement, enchaînons directement avec le vif du sujet. Tu nous offres, merci beaucoup Tylan, une transition toute faite. Donc, cette Maison pour la science... tu viens de le dire, qu'ils s'adressent donc aux enseignants du primaire et du secondaire, notamment nos collègues du collège.
Oui, ça fait.
En fait, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, la Maison pour la science, on met en place des actions de développement professionnel, donc pour les enseignants du primaire et les enseignants du collège en sciences. Donc, on se base surtout sur la démarche d'investigation, et le but, c'est pas seulement d'apporter des connaissances aux enseignants, mais c'est plutôt d'apporter des compétences autour des sciences.
Voilà, donc en gros, le constat.
Le
constat qui était
vous
fait.
Vous m'enlevez les mots de la bouche, Jean-Philippe.
Voilà, de l'Académie des sciences, c'était de dire que les sciences, pour les élèves, c'est souvent associé à théorie, à quelque chose d'un peu rébarbatif, et qu'il fallait que dans l'école, les élèves puissent retrouver le goût ou le plaisir de faire de la science, et donc la démarche d'investigation dont a parlé Tylan, qui est basée autour de l'expérimentation en fin de compte, du développement de la curiosité, vise à développer en fin de compte cette pédagogie, on peut dire, d'une science attractive, d'une science qui donne envie aux élèves. Mais d'ailleurs, il faut le dire, quand on fait les actions de développement professionnel, ils donnent aussi sacrément envie aux enseignants de continuer.
Effectivement, ça a du succès quand même, les mises en situation à la maison, puisqu'on met littéralement les mains à la pâte.
Voilà, les enseignants en fin de compte expérimentent dans les actions de développement professionnel professionnels ce qu'on va leur demander de faire faire à leurs élèves. Mmh. C'est-à-dire qu'ils se mettent en position de découvrir, de se poser des questions, de faire des propositions, quelquefois de se tromper aussi, mais tout ça dans un esprit positif, hein, de découverte et de... et de, d'élaboration, en fin de compte, d'un, aussi d'un contenu.
Oui, on appelle ça en fait les aléas du direct. Rassurez-vous, ça, on se fait avoir une fois, pas deux en général. Ouais. Alors, dites-moi, donc en fait, il y a une demande, certaine, une demande inconsciente, on va dire, des enfants, parce qu'en général, on ne peut pas dire que les enfants ou les jeunes élèves du collège fassent une démarche auprès du milieu universitaire pour avoir ce genre de structure, me semble-t-il. Hein. Mais en ce qui concerne en fait nos collègues professeurs, donc quand je dis nos collègues, bon, certes, en fait, je suis un peu en train de crever en fait donc le rideau en ce qui me concerne moi-même, mais en fait je parle plus globalement sur le fait que nous sommes une radio associative basée sur le site donc de l'université de Lille 1 à Cité Scientifique. Est-ce qu'il y a eu également en fait pour la mise en place de ce projet donc Maison pour la Science une demande émanant des professeurs des écoles donc l'enseignement primaire ou des professeurs de collège de l'enseignement secondaire?
Alors, la demande, en fin de compte, on a été sollicité aussi. Alors, j'ai dit au niveau national, hein, Lille 1 a été identifié comme l'établissement le plus à même de porter un projet de Maison pour la Science. Et au niveau local, le rectorat, hein, en particulier l'inspectrice d'académie chargée du développement de la culture scientifique, hein, Marie-Christine Grolière.
Très bien.
En fin de compte, était effectivement très intéressé au fait que la Maison pour la Science s'installe dans la région pour soutenir aussi son action à l'intérieur des établissements. Alors, au niveau des, par contre, des enseignants, bah, y a une curiosité. C'est quelque chose de nouveau. Donc, cette curiosité, à chaque fois qu'ils viennent nous rencontrer, en fin de compte, hein, dans des actions ou dans des informations, hein, des moments d'information, la curiosité, elle se transforme en un intérêt réel pour la démarche que nous proposons.
Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur l'interdegré et l'interdisciplinaire. Donc ouais. Voilà, nous on cherche à mettre ça en place le plus possible. Donc c'est pas forcément évident, surtout l'interdegré. Mais et c'est aussi une demande des enseignants et on se rend compte dans les actions que quand on va dans un collège et qu'on a les écoles, les enseignants des écoles qui viennent, on se rend compte que les enseignants de collège et les enseignants de l'école voisine se connaissent pas forcément. Et là, il y a des liens qui se tissent et ces liens, je pense, peuvent être vraiment un vrai moteur pour la culture, pour l'enseignement des sciences.
Alors, concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire, en fait, comment est-ce que... Pour reprendre tes propos, Tilan, les professeurs de collège ou d'enseignement primaire en fait sont amenés à se rencontrer, à mettre en place en fait donc des passerelles entre établissements par le biais en fait de la Maison pour la Science.
Alors on a deux types d'actions. On a des actions territoriales et on a aussi des actions qui sont inscrites au PAF. Alors cette année c'était
le PAF,
le plan académique
de formation. Voilà.
Tout à fait. Alors donc cette année les enseignants se sont inscrits par le biais du PAF. Et l'année prochaine, ils vont s'inscrire par contre directement sur notre site internet. Donc ça, c'est important. Les actions seront bien dans le catalogue du plan académique de formation, mais l'inscription se fera sur notre site internet dès la rentrée 2015. Donc ça, c'est un premier type d'action. C'est des actions donc, à la volonté de l'enseignant. Il va sur le site, il s'inscrit et nous, derrière, en relation avec le rectorat, on fait les démarches pour que les directeurs autorisent l'enseignant à aller donc dans cette formation, cette action, pardon. Ensuite, on a un autre type d'action qu'on appelle les actions territoriales. Et là, c'est vraiment pour être au plus près des enseignants. On est en relation là avec les inspecteurs du premier degré. Et on essaie de visualiser un peu les projets qui se mettent en place sur le territoire. Et les IEN, donc les inspecteurs du premier degré, nous remontent en fait des noms d'enseignants qui ont un projet en sciences et nous disent, voilà, nous, on voudrait travailler sur telle thématique. Est-ce qu'on peut mettre en place une action? Et donc, la Maison pour la Science se déplace au plus près de la demande, je dirais.
Donc, de l'établissement scolaire.
Exactement. Et met en place l'action. Et c'est vraiment là où on essaie de favoriser l'interdegré. Voilà un petit peu pour les...
Alors,
les
je pense que l'enjeu pour le premier degré... Alors, rappelons que le premier degré, ce sont les écoles primaires, parce que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, dans les écoles primaires, il y a un vrai enjeu, parce que beaucoup de professeurs de ces écoles, en fin de compte, n'ont pas eu une formation scientifique très poussée. Et le fait de devoir faire de la science les met quelque part en difficulté, où ils ne se sentent pas forcément à l'aise. Et le but... de travailler avec des collèges proches, c'est aussi de créer les liens qui vont faciliter le montage de projets en proximité. La rencontre avec la Maison pour la Science, c'est aussi une manière de, je dirais, dédramatiser l'approche des sciences et de montrer qu'on peut faire de la science sans être forcément très compliqué. Hein. Ça, c'est la première chose. Et puis que derrière, il y a aussi des collègues des universités ou des collègues des collèges qui peuvent aider si on a des questions qu'on se pose ou des problèmes de mise en œuvre.
Alors, vous avez exemple concret à nous proposer, histoire en fait d'aller chez les collègues professeurs d'école ou professeurs de collège en sciences, en fait, afin de faire venir dans leur établissement la Maison pour la Science. Donc, rappelons au passage, bien sûr, en fait, pour auditrices et auditeurs, notamment qui seraient professeurs d'école ou candidats en fait au concours de recrutement des professeurs d'école ou encore le CAPES ou l'agrégation qui pourrait ouvrir au collège, sachant qu'en fait l'agrégation c'est pour collège et lycée. Que en fait, donc, lorsque Jean-Philippe dit ils n'ont pas une formation spécifiquement scientifique, c'est tout à fait vrai, parce qu'en fait, n'oublions pas que le concours de recrutement de l'enseignement pour en fait les professeurs des écoles est un concours en fait, on va dire pluridisciplinaire, où on attend des bases solides en termes en fait donc de maîtrise des sciences humaines, des mathématiques, mais que l'on n'attend pas en fait une spécialisation en fait à master 2, à doctorat en sciences dures, etc., etc. Donc, bien sûr, en fait, le but n'est pas de remettre en question la compétence de nos chers professeurs des écoles, mais c'est tout bêtement de rappeler qu'il va de soi que comme il faut être une brute de pédagogie pour, en fait, le monde de l'enfance et de la petite enfance, on ne peut pas tout faire en quelques années de master 2, et c'est tout le respect qu'on a pour eux, bien sûr. Tilane, une remarque, oui. Je sens qu'en fait, tu as un mot à nous offrir.
Oui, en fait, je voulais juste revenir sur les enseignants des sciences. Voilà, les actions, elles sont aussi ouvertes aux enseignants en histoire. On essaie d'avoir différentes disciplines dans nos actions parce que comme ça, on peut faire des liens entre les différentes matières, les différentes disciplines. Et ça, c'est très important. Nous, on met vraiment l'accent là-dessus. C'est-à-dire qu'on a souvent, je pense à une action qui s'appelait de la plante textile, on fait des liens avec l'histoire. On ne reste pas que sur la bio, par exemple, sur cette action.
Oui, vous êtes en parfaite cohérence avec en fait donc le mouvement d'interdisciplinarité qui traverse le monde de l'éducation nationale primaire et secondaire depuis déjà au moins 2 décennies, si ce n'est 3. Et bien sûr, en fait, cela démontre que la Maison pour la Science est en parfaite cohérence avec les actuelles réformes de l'éducation nationale, comme nous l'a souligné la ministre de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, en fait, Najat Vallaud-Belkacem, dans sa proposition de réforme la semaine dernière.
Tout à fait.
Et un projet concret, c'est-à-dire, est-ce que vous avez, quand je dis concret, alors je ne prétends pas que vous n'ayez pas été concret, mais en fait, est-ce que vous avez vraiment un cas d'école, c'est-à-dire, je ne sais pas, parler, tu l'as dit il y a quelques secondes, des textiles, ça pourrait être parler de quelque chose qui soit compréhensible par des élèves tout petits.
Alors, je peux peut-être parler de l'éclipse, par exemple.
Ah bah oui, tiens.
L'inauguration. Alors, c'est vrai que nous, en général, on touche le public enseignant, mais pour l'éclipse, et on a l'inauguration de la maison le 20 mars, on accueille à la Maison pour la Science, exceptionnellement, une classe de CM1, et on accueille aussi 2 classes de 4e.
Alors, pour les auditrices et auditeurs qui auraient loupé l'éclipse, c'est pas samedi soir ?
L'éclipse, non. Oui. Alors, l'éclipse, c'est vendredi.
C'est vendredi,
c'est
voilà.
C'est vendredi
pour
matin.
Moi.
Donc, elle est entre 9h30 et 11h30. Et donc, le pic, ce sera à 10h30. Et donc, on a une, si je ne me trompe pas, une éclipse à 85%. Donc, assez important.
Ouais.
Donc, c'est vrai qu'on va pouvoir l'observer. En plus, il me semble qu'il va faire beau.
ça tombe bien.
Donc, voilà, ça tombe bien. Donc, par exemple, des mises en situation, on va parler donc, de l'éclipse. plus. Les élèves ont déjà travaillé en classe autour d'images. Mmh. On ne leur a pas dit que c'était des images d'éclipse. Et donc, ils doivent reproduire ce qu'il y a sur l'image. Donc déjà, ils vont essayer d'appréhender. Est-ce qu'il y a un objet devant, derrière, il y a un halo lumineux, etc. Donc, le but, c'est d'essayer de susciter des questions et vraiment de les laisser faire leur petit bonhomme de chemin. Donc, ils vont arriver à la maison pour la science. Ils vont avoir différentes représentations de cette image d'éclipse, sans savoir ce qu'est une éclipse. Et ils vont nous expliquer un peu ce qu'ils ont compris de cette image, ce qu'ils perçoivent. Et après, on va regarder donc cette éclipse. On va être avec des scientifiques. Donc ça va permettre vraiment aussi aux enfants de rencontrer des chercheurs, ce qui est aussi important parce qu'ils ont une représentation des chercheurs, des hommes en blouse avec des lunettes. Donc voilà, donc ils rencontrent des chercheurs. Et après, on va faire aussi différents ateliers. Je pense notamment à un atelier sur les ombres où, pareil, on leur montre une photo avec une ombre. Alors là, c'est une petite maison et un petit bonhomme. Et on va leur dire, il faut essayer de représenter cette photo. Voilà. Donc, ils vont avoir du matériel, une source lumineuse, etc. Et ils vont essayer de comprendre ce qu'est une ombre, donc une absence de lumière. Et après, on fait le parallèle avec l'éclipse. Je ne peux pas vous donner des mises en situation toutes faites, parce que aussi, ce serait embêtant, puisque après, on les fait avec les enseignants. Donc, il faut aussi que les enseignants découvrent. Mais le but d'une mise en situation, c'est vraiment de susciter des interrogations et qu'après, les enseignants puissent faire leur petit bonhomme de chemin, les hypothèses. C'est vraiment le déroulé de la démarche scientifique.
Mm-hmm. Alors, je pense que un mot clé que Tylan a bien soulevé, c'est la question de la rencontre. Mm-hmm. Les actions de formation professionnelle, c'est des lieux de rencontre entre des formateurs du rectorat, des enseignants-chercheurs ou des chercheurs, et des enseignants qui sont en situation dans des écoles primaires ou des collèges. Mmh. Et cette rencontre, c'est quelque chose d'important, parce que c'est d'abord d'établir un lien humain, et à travers ce lien humain aussi, de pouvoir établir en confiance, j'en fais dire, de se réassurer sur un corpus de connaissances. Je vais donner un exemple, par exemple, de mise en situation qu'on a mené avec des formateurs d'écoles primaires, donc des professeurs formateurs, sur, par exemple, la question de la mesure du temps. Donc, expérimentation, on leur laisse imaginer le dispositif qui permet de compter, de mesurer le temps. Il y a eu plein de questions sur... il y a eu des propositions très très différentes. Donc ça, c'était l'aspect créativité de nos collègues. Mmh. On n'a pas été déçus. Et puis ensuite, il y a eu le retour un petit peu théorique. Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire de tel phénomène? Est-ce que, par exemple, sur un pendule, le poids du pendule a une influence ou pas d'influence sur le temps? Bon. Et ça, c'est important, là, par contre, d'établir le corpus scientifique qui est derrière pour pas raconter des choses, de donner des éléments erronés aux enfants. D'accord. Et puis ensuite, il y a eu visite de laboratoire, où là, ils ont pu aller visiter le FLAM, mm-hmm. où ils ont pu voir une expérience qui mesurait le temps à une précision telle que, en gros, l'horloge qui est en train d'être mise en place et qui est absolument nécessaire, par exemple pour les GPS, c'est un retard de moins d'une minute sur la durée de vie de l'univers. Mm-hmm. Donc, ils ont pu se rendre compte qu'entre leur petit dispositif où la précision elle était de l'ordre de la seconde, et puis cette horloge qui est en train de s'élaborer dans les laboratoires de recherche, il y avait tout justement le champ de la recherche entre les deux. Quoi. Et les contacts qui se sont établis, et puis aussi l'intérêt. Il y a des enseignants qui nous ont dit après, si on avait fait de la science comme ça dans notre jeunesse, peut-être qu'on se serait pas, on n'aurait pas fait les mêmes études. Quoi.
Voilà. C'est vrai que dans nos mises en situation, en fait, on demande aux enseignants de vivre la mise en situation, mais de la vivre avec leurs propres connaissances, avec leurs bagages, et pas de se mettre à la place des élèves et d'imaginer ce que les élèves pourraient donner comme réponse, par exemple. Mm-hmm. Ils vivent à leur échelle. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'en vivant cette mise en situation, ils comprennent en fait le mécanisme aussi qui se passe chez l'élève. Mm-hmm. Donc c'est vraiment ça qui est important. Et après, c'est comme Jean-Philippe l'a dit, on a toujours dans nos actions de développement professionnel, donc une partie de mise en situation, un éclairage scientifique pour aller aussi plus loin dans les connaissances, je dirais. Et on a aussi une partie où on essaie de mettre en place avec les enseignants des transpositions dans les classes. Donc voilà les concepts qu'on a vus et comment est-ce qu'on peut les faire passer dans les classes. Et on va aussi bien au-delà des programmes, quand on va dans les laboratoires, pour voir un peu comment s'applique la recherche aussi, parce que c'est important d'aller au-delà de juste le programme scolaire.
Donc en définitive, c'est une double opportunité qui est offerte par l'intermédiaire de la Maison de la Science, c'est-à-dire non seulement on propose une mise en application concrète pour les élèves qui, dans le cadre en fait, de la structure scolaire, avec les moyens du bord, j'entends, hein, le but n'est pas du tout de pointer du doigt des failles chez nos collègues de l'enseignement secondaire, mais tout bêtement, ou primaire, entendons-nous bien, mais tout bêtement, en fait, voilà, vous apportez du matériel, vous apportez des compétences, ce qui permet en fait d'ajouter une option supplémentaire à ce qui se fait déjà à l'intérieur des lycées. Mais il semblerait que vous proposez non seulement en fait, un plus pour les élèves, mais également un plus en fait, pour les enseignants.
Tout à fait. Oui.
Ça, c'est clair. Alors, comment ça se passe également sur cette rencontre entre enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et entre enseignants du scolaire primaire et secondaire?
Oh, mais ça se passe super bien.
Oui.
Je pense que s'il y a eu une appréhension, je ne sais pas trop, hein, du côté des collègues du primaire et du secondaire, il est clair que dès les premières minutes d'échange et dès que les gens se mettent en situation, en fin de compte, je dirais que la barrière est franchie. Et puis après, dans les échanges, après, quand on parlait de corpus un peu plus théorique, c'est pas un cours magistral, c'est bien dans la base de l'échange et sur la base des questions qui se sont posées précédemment.
J'ai un exemple, un exemple tout bête, mais on a fait une action qui s'appelait Au milieu de vie, et à la fin de l'action, on a une enseignante de primaire qui a dit « Ah si, je voudrais faire ça dans la classe, etc. Ça serait très bien. Par contre, il me manque des microscopes, il me manque ceci. » Et l'enseignante à côté donc, du collège a dit « Ah bah tiens, tel jour, je peux voir avec mon école si on peut pas te prêter ça. » Et puis peut-être que nous, on fait ça au programme avec les élèves, donc on peut peut-être organiser une rencontre. Voilà, il y a des liens qui se créent. Et notamment dans le troisième cycle, maintenant, qui comprend la sixième, donc CM1, CM2, sixième, c'est important, donc toutes ces rencontres, et de créer des liens, en fait.
Et côté enseignant-chercheur, vous êtes sur une base du volontariat ou il y a une demande de la part des autorités ministérielles, bien qu'en fait la tutelle soit moins exigeante, moins lourde entre ce qui se passe entre enseignants et le ministère dans le primaire et le secondaire qu'avec le supérieur?
Oui, alors du côté enseignant-chercheur, on n'est pas sur le domaine de la contrainte, vous savez. Dans l'université, on n'impose pas grand-chose. C'est vrai qu'on s'adresse à des collègues qui sont déjà motivés sur l'aspect de la diffusion des savoirs qui s'élaborent dans les laboratoires. Ça, c'est la première chose. Mais ce qu'on tient du côté de la Maison pour la Science, c'est quand même de reconnaître le travail supplémentaire que nécessite quand même ce genre d'intervention, parce qu'ils sont quand même associés dès le départ à la conception. C'est pas seulement des intervenants, c'est qu'ils sont co-concepteurs des actions de la Maison pour la Science, et c'est quand même un investissement important. Donc là, on reconnaît dans leur service cette action-là.
Tu parles de co-conception. Effectivement, il faut savoir que nous, les actions de développement professionnel, elles sont co-construites et co-animées par, alors je vais mettre des guillemets, un scientifique et un pédagogue. Alors ça ne veut pas dire que le scientifique n'est pas pédagogue et que le pédagogue n'est pas scientifique. Voilà. Mais en général, par un enseignant-chercheur et un enseignant de l'éducation nationale.
Alors, terminons par les questions qui fâchent. Donc en fait, comment ça se passe à la Maison pour la Science? Y a-t-il une structure derrière? Quelle est cette structure qui finance? Et en cette période, en fait, justement, d'austérité galopante, comment ça se passe pour l'actualité de la Maison pour la Science et le devenir pour la Maison pour la Science?
Alors, l'actualité de la Maison pour la Science, c'est l'inauguration de ses logos vendredi après-midi à 15h. Alors, on est très content de pouvoir offrir à la maison des locaux. Hein. Donc ces locaux, ça va être...
Donc on, c'est l'Université Lille 1.
L'Université de Lille 1 et les financeurs aussi. Donc on va rapidement venir à Très la bien. Question de la finance.
Nous sommes là
mais,
pour ça.
Mais je pense que c'est quand même important d'abord de se dire la maison, c'est le lieu, hein, et c'est comme ça qu'elle a été conçue, c'est le lieu pour les professeurs. Hein. Mm-hmm. C'est la maison de la science pour les professeurs. Mm-hmm. Et donc c'est un lieu où ils pourront venir, alors bien sûr pour des actions de développement professionnel, hein, donc il y a une salle de réunion adaptée à les recevoir, mais aussi pour venir prendre des conseils, pour venir se... il y a un centre de documentation qui est en train de se mettre en place, donc c'est vraiment un lieu aussi de rencontre et d'échange avec l'équipe de la maison. Alors l'équipe de la maison, c'est un certain nombre de collègues qui, donc, y a des moyens. Les moyens financiers sont apportés dans le cadre du PIA, hein, donc plan investissement d'avenir, programme investissement d'avenir par la fondation, mm-hmm. en partie. Et l'université met des postes à disposition, mm-hmm. Pour faire vivre aussi cette structure, et le rectorat met aussi des postes à disposition pour constituer cette équipe de la maison qui anime, qui propose des actions de développement.
Donc on peut dire que c'est un partenariat ministère de l'enseignement supérieur et ministère de l'éducation nationale.
Oui, tout à fait.
Très bien.
Et Académie des sciences quand même aussi.
D'accord.
Qui a un rôle prégnant sur les orientations pédagogiques et scientifiques de la maison.
Très bien, très bien. Et alors, quelles sont vos relations avec Xperium ?
Alors, Xperium, on occupe les mêmes locaux, hein, puisque le bâtiment, on occupe la moitié du bâtiment qui est actuellement occupé aussi par Xperium. La cible est différente.
Nous le savons bien, vous nous avons reçu en fait votre collègue pour Xperium il y a déjà quelques temps en fait, voilà, à Radio Campus Lille.
Exactement, donc Jean-Claude Léou. Hein. Mais par contre, puisque la cible c'est d'abord les lycées et ensuite les entreprises, hein, mm-hmm. Alors que nous, vous avez entendu, c'est primaire et collège.
Et secondaire, oui.
Hein. Ceci dit, la proximité, là on espère aussi que comme pour les écoles et les collèges, le fait d'habiter l'un côté de l'autre, etc., y a des synergies qui se créeront. Mm-hmm. Des rencontres, des potentialités de développer des projets qui associent les deux structures, Xperium et Maison pour la Science.
Magnifique. Et je pense qu'en fait, pour clore l'interview, il est nécessaire, bien sûr, en fait, de passer par la case pratico-pratique. Alors, Tylan, je sais que tu es fan de cette adresse Internet, donc, bien sûr, en fait, pour bénéficier de ta douce voix, peux-tu nous donner donc les coordonnées de la Maison pour la Science pour vous contacter, pour mettre en place, en fait, de futurs partenariats entre, donc, les écoles primaires et les collèges de la région Nord-Pas-de-Calais. Tiens, en fait, c'est pas bête. Et géographiquement, vous étendez où ?
Vous ?
Vous vous étendez sur quelle région, enfin sur quel territoire ?
Sur le Nord-Pas-de-Calais.
La Picardie ?
Voilà.
Non,
attends. Mais enfin, voyons de. Enfin, vous n'êtes pas au fait de la réforme des régions. Oui, vous allez voir dans les régions.
On attend qu'elle se mette en
Voilà, dans les urnes, ça va être beau dimanche. Au passage, sur Twitch, sur Twitter, n'oubliez pas d'aller voter dimanche. Alors, donc, en fait, quels sont les contacts à nous proposer, Tylan ?
Alors, donc, pour nous contacter, il vaut mieux passer par le site des Maisons pour la Science. Donc, nous, on a un réseau des Maisons pour la Science. Donc c'est un site pour toutes les maisons. Mm-hmm. On a une déclinaison dans le site Nord-Pas-de-Calais. Mm-hmm. Pour trouver le site, donc le plus simple, c'est de taper Maison pour la Science dans un moteur de recherche. Sinon, oui. C'est maison avec un S,
oui.
-pour-la-science.org.
Voilà, en fait, nous en avons parlé avant l'interview. Et en fait, Tylan adore cette adresse Internet. C'est pour ça que je me suis fait un mal à plaisir
de la torturer,
en fait, une fois de plus. Non, rassurez-vous, chère Triche, chère Retard. On remet une couche, donc. Vous tapez sur votre moteur de recherche Maison pour la Science, comme l'a si bien dit en fait notre invité Tylan, ou alors tout bêtement www.maison-pour-la-science.org. Bah, moi aussi en fait je me moque mais je me plante. .org, maison-pour-la-science.org, maison-pour-la-science.org. Science est au singulier et maison au pluriel. Voilà, tout est simple.
Il n'y a pas de problème.
Un grand merci Jean-Philippe.
Merci.
Un grand merci Tylan.
Merci à toi.
Longue vie à la Maison pour la Science. Et donc rendez-vous ce vendredi pour l'inauguration sur le site de l'Université de Lille 1. Dans quel secteur de l'Université de Lille 1 ?
Juste à côté du chantier de...
du Learning
Center.
Rêver, hein.
Ouais, voilà.
Du Learning Center.
Voilà,
voilà. Donc grosso modo, en fait, si vous venez de la voie rapide, il faut prendre la sortie Cité Scientifique.
Mais vous venez en métro,
oui,
et ça se rafraîchit.
Enfin,
à partir de cité scientifique.
Je ne dis pas pour la voiture, ne faisons pas de stressisme non plus, en fonction en fait, des collègues qui viendraient d'assez loin pour être éloignés des réseaux de transport en commun. Entendons bien, ou également en fait, donc, métro, cité scientifique. Merci beaucoup Jean-Philippe.
Merci bien.
Merci beaucoup Thylaine.
Merci.
Et à très bientôt. Et bien sûr, chez Autrice sur Étude, restez fidèles à l'écoute sur 6,6.